le mandat a été mis en place en octobre 2021. Et en tant que rapporteur spécial, donc, j'ai commencé mon mandat en mai 2022. Du coup, le rapport reflète un premier abord donc, de la situation des droits de l'homme qui, il me semble, est quelque chose d'assez dynamique. Et à ce propos, me demander si les autorités burundaises ont réagi au rapport, je dirais que, en tout cas, dans le rapport, dans le processus d'élaboration, ils ont été consultés. Et lorsque le rapport a été rédigé, au moment de la publication, il a aussi été envoyé donc à l'État burundais. Et alors, pour le moment, on n'a pas eu un retour. Mais je suppose qu'ils sont toujours en train de l'exploiter afin de tirer donc les enseignements ou les premiers enseignements de ce premier exercice.
Qu'est-ce que vous attendez des autorités du Burundi en la matière ?
En réalité, je ne sais pas quelles peuvent être les attentes puisque le mandat est clair. Le mandat stipule donc que premièrement, il faut observer, surveiller et donner des conseils. Alors, le rapport donc a été élaboré dans ce sens et des recommandations ont été faites à l'État burundais. C'est à l'État burundais maintenant d'analyser les recommandations qui ont été faites afin de voir les aspects qui méritent des corrections en matière de droits de l'homme au profit des Burundais et des Burundaises.
Est-ce que vous pouvez nous donner justement quelques exemples de recommandations de votre rapport ?
Nous avons des recommandations qui concernent l'état de droit, le renforcement de l'état de droit, les questions sur la justice par exemple, le renforcement d'un appareil judiciaire assez fort qui va dépasser les différents clivages. Nous avons donc des recommandations concernant l'espace civique, les questions sur les droits économiques, les questions sur les droits sociaux et tout un ensemble de recommandations qui permettront, s'ils sont mis en œuvre, de renforcer la situation des droits de l'homme au Burundi.
Quelle est votre évaluation des efforts en matière de lutte contre l'impunité ?
Le Burundi revient de loin. La dernière crise date de 2015 et je crois que l'État fait des efforts pour passer cette crise-là et revenir à une situation normale. Et dans ces efforts-là, on peut constater que la lutte contre le trafic des êtres humains a été prise en compte. Il y a une loi qui a été élaborée. Il y a également le code du travail qui a été réformé afin de prendre en compte les conventions OIT. Mais ce sont des efforts qui méritent d'être structurés, qui méritent d'être continués, qui méritent d'être poursuivi de manière soutenue pour que on revienne d'abord à une situation normale avant donc d'espérer des progrès significatifs.
Vous avez dans votre rapport mentionné les restrictions observées dans l'espace civique et les difficultés des partis politiques d'opposition et des syndicats à se réunir. Considérez-vous qu'il y a eu une dégradation à la matière au cours des dernières années ou bien l'inverse, est-ce qu'il y a eu des progrès ?
Pour le moment, je crois qu'on a subi des dégradations, ce qui fait que la question des syndicats ou des partis d'opposition reste posée. Lorsque des partis d'opposition tentent de se réunir, il y a toutes les difficultés possibles pour empêcher ou perturber l'exercice de cette liberté. Il en est de même des syndicats qui sont assez muselés ou pour ne pas dire font l'objet de pressions et autres mauvais traitement pour ne pas porter une contradiction en fait dans l'exercice de ces différents droits-là.
Est-ce que vous considérez que les choses vont plutôt dans la voie de l'amélioration ou...
Depuis ma prise de fonction, je crois plutôt que on n'a pas aperçu des signes ou des faisceaux de signes montrant une amélioration pour le moment. Du coup, c'est plutôt dans l'expectative, nous restons donc optimistes que pour l'avenir, on aura des améliorations, ne serait-ce que partielles de cet espace civique-là.
La situation des défenseurs des droits humains est un aspect qui préoccupe les Nations Unies, pas seulement au Burundi. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu la situation des défenseurs des droits humains ?
La situation des défenseurs des droits de l'homme est à l'image du pays. En fait, ils sont à une étape de reconstruction. Et les défenseurs des droits de l'homme ont subi beaucoup d'agressions, de violences, d'autres se sont exilés et beaucoup vivent en exil actuellement hors du Burundi. Ce n'est qu'avec le mouvement de normalisation qu'eux également, ils pourront prendre part à l'œuvre de reconstruction du Burundi. Sinon, actuellement, ils sont presque tous hors du Burundi et on n'a pas de signe nous permettant de dire qu'ils sont en train de revenir vers le Burundi. Du coup, ça reste inquiétant, ça reste un sujet de préoccupation en ce qui concerne mon mandat également.
Avez-vous des contacts avec ces défenseurs des droits humains hors du Burundi?
Dans mes attributions, en tout cas, je reçois des messages tous les jours de ces défenseurs-là. Il y a des échanges, mais comme je l'ai dit, en fait, il faut appréhender les droits de l'homme dans leur globalité, non pas de manière sectorielle. Quoique, à ce sujet-là, je pense que des recommandations donc, ont été faites également pour qu'ils puissent exercer librement cette liberté qui leur est conférée, même par la loi nationale du tout. Nous restons donc en contact pour discuter. Et également, il y a le dialogue également que nous voulons avec l'État burundais, un dialogue qui se veut constructif et qui, à terme, donc, devrait apporter un meilleur être aux Burundais.
Concernant les droits humains en général au Burundi, vous avez mentionné un aspect positif sur le trafic d'êtres humains. Est-ce que vous pouvez nous mentionner d'autres aspects positifs en matière de droits humains au Burundi?
Essentiellement, il faut retenir qu'il y a un effort qui est fait donc, au niveau des droits économiques et sociaux. Et il y a, à ce titre-là, j'avais mentionné précédemment l'intégration ou l'incorporation des conventions OIT au niveau du droit du travail burundais et j'avais également souligné, comme vous l'avez dit, la loi sur le trafic et les poursuites qui est reconnue également. Puis il y a également la mesure de libération des détenus qui a eu lieu, qu'on peut citer comme les principales mesures d'amélioration de la situation des droits de l'homme au Burundi pour le moment.
Est-ce que vous vous êtes rendu au Burundi? Est-ce que vous prévoyez de vous rendre au Burundi? Comment ça se passe un peu dans le cadre de votre mandat?
Pour le moment, des demandes ont été faites dans ce sens. Je pense que les autorités ou l'État burundais est en train d'analyser ces demandes. Nous restons dans l'expectative. Nous attendons le retour de l'État burundais quant à une éventuelle visite terrain sur le Burundi. Quoique, même sans visite, le mandat peut s'accomplir de manière satisfaisante.
Pourriez-vous nous dire quelle est l'importance de la collaboration entre le Burundi et vous en tant que rapporteur spécial sur les droits humains au Burundi?
Ce que je voudrais souligner à ce niveau-là, c'est que la question des droits de l'homme est une question qui est dynamique, qui est évolutive, pas du tout statique. Lorsque un pays collabore avec une procédure spéciale, ce pays-là montre qu'il n'y a rien à cacher. Ils ont des défis relativement aux droits de l'homme comme n'importe quel pays au monde. Donc, il n'y a pas lieu de singulariser un pays par rapport à un autre. Mais discuter avec une procédure spéciale permet d'identifier les goulots d'étranglement, les causes, les sources des conflits et de travailler de telle sorte à les éviter ou à les juguler le plus rapidement possible. Ça permet également à l'État de demander une assistance technique tout en étant tout à fait à l'aise. Parce que le rapporteur spécial ou la procédure spéciale travaille de manière impartiale et indépendante. Et lorsque vous identifiez, par exemple, les domaines de coopération que vous voulez, le plaidoyer est plus facile. Mais lorsqu'il n'y a pas de coopération, il y a donc une difficulté à établir les priorités de ce pays. Et du coup, de demander de manière simple l'assistance technique. Il y a un fait. Lorsque nous regardons, par exemple, les chiffres en ce qui concerne l'éducation, la santé, l'alimentation, après la crise de 2000, les chiffres ont chuté. Mais comment demander de manière objective une assistance technique si elle n'est pas constatée de manière contradictoire, par exemple? Du coup, la collaboration est indispensable pour faire un plaidoyer de qualité.